Mardi 28 février 2023, il sont 11h et nous vous saluons, vous toutes et vous tous, les chères et fidèles auditrices et auditeurs du Club La Presse. Je sais que vous allez entrer en ligne bientôt sur le coup de 12h. Les deux numéros n'ont pas changé, c'est le 22, 21, 33, 74 et le 91, 36, 63, 75. De Lomé à Dapan, en passant par Anéron, à Takpame, Sokodé, Niamtougou et Bassa, nous vous saluons toutes et tous, chères et fidèles auditrices et auditeurs du Club de la Presse, et nous nous invitons à partager cette pensée du jour qui dit, citation, « Là où l'ignorance hurle avec arrogance, le silence enseigne avec élégance. » Encore une fois, « Là où l'ignorance hurle avec arrogance, le silence enseigne avec élégance. » Au Club de la Presse aujourd'hui, nous allons parler naturellement culture et art. Nous allons également parler formation scolaire. Nous allons repartir sur les pas du Forum des producteurs agricoles du Togo qui vient de vivre son quatrième épisode à Sokodé et dans la région centrale. Nous allons partager avec vous quelques tristes informations de ces personnes victimes d'intolérance et de violence ici et là. Et puis si nous avons le temps, nous allons aborder comment quelques journaux continuent à regarder le rapport d'audit de la Cour des comptes sur la gestion du fonds COVID-2020. Réalisation de cette émission, Thomas Datevi et Jérôme Kodjo Akucha. Les confrères autour de moi, Eric Hugues Pakudo Johnson du journal L'Union, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM, bonjour chers confrères.
Et confrères dont Isidore Sassou Atialo Akolo de Actu Express, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour confrères au plateau et bonjour à toutes et à tous.
Et celui qui sent encore le forum des paysans, forum des producteurs, il était dans la région, il a dû manger plein de mets de son terroir. Lui, c'est Sam Djobo Teterou Anas. Bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux confrères en studio, bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de la nouvelle génération.
À chaque fois que je t'appelle Teterou, je sens les dieux Kotokoli vibrer depuis là où ils sont.
Tout à fait, c'est normal. Tu sais, Teterou, c'est un nom typiquement Tim de chez moi. Et quand ton papa ou tes aïeux te donnent ce nom-là, ça fait un lourd héritage qu'on te remet entre les mains. Et moi, je suis fier de porter ce nom.
Merci. Eh bien, allons-y rapidement avec la page culture et art. Cette information que nous rappelle le confrère Miroir Info, à savoir le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO, qui en est déjà à sa 28e édition démarrée depuis le week-end dernier, qui se poursuit jusqu'en fin de cette semaine. Le Togo, pressenti d'abord comme pays d'honneur, a dû céder cette place avec ou sans guillemets au Mali, mais le Togo se trouve représenté au FESPACO par une délégation de 25 personnes. Là-dedans, on y compte les agents du ministère de la Culture et du Tourisme, mais il y a aussi et surtout des réalisateurs, des producteurs, des scénaristes, des acteurs comédiens, des responsables d'écoles et d'instituts de formation en cinéma, des délégués généraux de festivals, des journalistes. Voilà, Sam Djobo, cette délégation vraiment multitalent et multiforme qui reprend le Togo au 28e FESPACO.
Oui, ça fait partie des rendez-vous auxquels le Togo prend part depuis plusieurs années. Le Togo, vous savez qu'il a une vision en faveur du cinéma, notamment parce que le FESPACO, c'est le festival du cinéma. Et donc, la forte délégation qui représente notre pays, ce n'est pas une surprise, parce que le Togo était déjà un membre très actif. Il prend régulièrement part à ce rendez-vous. Et pour cette édition, le Togo était attendu pour être pays invité d'honneur. mais compte tenu du fait que, je crois, l'information n'a pas été vite portée à la connaissance du ministère, donc il y a certains réglages qu'il fallait faire, ça n'a pas pu être fait à temps, et donc ils ont préféré tourner leur regard vers le Mali. Mais quoi qu'on dise, le Togo, le cinéma togolais est en parfaite mutation. Il y a beaucoup de choses qui se font. On a des réalisateurs, Steven Aff, pour ne citer que lui-là. Il fait déjà d'énormes efforts au Togo, à Lomé. Il y a des salles, quand on prend Canal Olympia, où il y a des projections de cinéma qui se font. Il y a le Grand Rex. Il y a des efforts qui sont faits dans le sens du cinéma. Même récemment, en Conseil des ministres, je crois qu'il y a une loi sur la cinématographie qui a été votée. Et donc, pour dire que le gouvernement togolais a un bon regard sur le cinéma, et il y a beaucoup de choses qui sont promises pour les cinéastes et les autochtones.
Les infrastructures, notamment des salles du cinéma, reconnaissons qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour conforter ce que Sam Dobo vient de dire. Oui. Les ça réalisateurs, hein, on a Steven Aff, il y a Tchédé, je crois Tchédé, quelque chose, Tchédré Issa, il y a également Marcelin Bossou, et bien... nous ne voulons pas faire jaloux, c'est pour dire quand même qu'il y a une certaine pépinière pour des talents qui ne cherchent que des moyens pour éclore, des moyens aussi bien publics, mais des moyens venant de mécènes. C'est pour dire, Isidore, que la culture a besoin de financement pour que les talents en herbe puissent vraiment s'exprimer.
Ça m'attriste. Le Togo était le pied de cinéma de rue ou de ville. Avec les trois arts à l'époque. Et à ce moment-là, Côte-Bas n'existait pas.
Abidjan.
Abidjan n'existait pas. Mais aujourd'hui, nous sommes le dernier de la classe. Et moi, ça m'écœure de voir ça. Parlant même des structures d'accueil. À l'époque, il y avait et le Togo, il y avait Res, il y avait Opéra, il y avait des grandes salles de cinéma. Il n'y avait pas de Souza. Mais aujourd'hui, ce truc-là, ce banco qu'on nous a mis comme Canal Olympia, là, moi, je n'en vois pas que c'est une salle de spectacle ou de cinéma. Non, soyons sérieux. Nous sommes en retard. Il faut avoir le courage de le reconnaître.
Mais il faut reconnaître que les salles de cinéma sont en crise partout. Le cinéma qui se trouve confronté à une concurrence des nouveaux moyens de la communication. Les salles de cinéma souffrent un peu partout. Mais le cinéma reste avec le FESPACO, le Togo qui est représenté par ses multiples talents. Le Togo est également pris une loi ou bien un décret, je crois, dans le sens de financement du cinéma. Oui. Et puis le cinéma dont nous parle l'Union aussi avec Eric. Lancement de ce fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle en Afrique.
Je voudrais un peu revenir sur le pays hôte de ce FESPACO. Alors, j'étais allé un peu à l'information puisque j'avais publié déjà que le Togo n'était plus le pays invité d'honneur et que cela a été remis au Mali. Ce n'était pas parce que le Burkina Faso avait voulu substituer le Mali, comme l'a dit le ministre burkinabé de la culture. Mais en réalité, il s'agit d'un problème de sous. Et quand je suis à l'information, ce que j'ai découvert, c'est que vous êtes un pays d'honneur, pays hôte, vous devez payer une somme de 500 millions de francs CFA.
Seulement.
Vous imaginez au Togo, avec tous les soucis que nos acteurs ont, on va débourser 500 millions parce que on est un pays d'honneur à ce FESPACO. Je crois que c'est un peu exorbitant pour notre pays et surtout pour le ministère de la Culture, dont
plus qu'un pays en guerre,
dans le budget. N'atteint pas ce montant. Parce qu'il faut aller véritablement chercher ce montant-là pour pouvoir payer, parce que vous êtes pays d'honneur. En réalité, être pays d'honneur, c'est vous mettre en ligne de mire au cours de ce festival. La deuxième chose que je voudrais dire, tout à l'heure, vous citiez la délégation togolaise qui est à Ouaga. Mais je voudrais signaler qu'il y a notre compatriote Ingrid Agbo, qui, dans le film, le Pimp 7 est en compétition à ce FESPACO. Mm-hmm. Et donc, je crois que une fois que la délégation s'est présentée là-bas, et avec ce film-là qui est en compétition, c'est dire que le Togo est très bien représenté. Oui.
Je peux te compléter que Marcelin Bossou également a une réalisation en compétition, comme Tchédré Issa également qui a un film. Il y a plusieurs catégories de compétition. C'est dire que le Togo ne fait pas de la figuration. Même si on n'est pas pays d'honneur, on y est quand même représenté.
Imaginez un Togo qui n'est pas un pays en guerre. Se faire ravir la vedette par un pays, le Mali qui est un pays en guerre.
On te dira que nous aurions d'autres priorités.
Ah
et
bon?
La leçon, Isidore, et tu le sais aussi, il y a certaines invitations où quand on te met à la place d'honneur, c'est plutôt un piège. Tu comprends? En
bon,
un spectacle,
non, moi, je, non,
quand
non.
Quand même tu paies ta place, tu vas t'asseoir. Mais quand on te fait, quand on te donne une invitation d'honneur et qu'on te met en première place, ce que tu débourses dépasse beaucoup plus que si tu avais payé, disons, ta place. Mais c'est une parenthèse.
Oui, oui, ça, c'est l'importance qu'on donne au cinéma.
Merci.
Alors, c'est le reflet.
Oui, ça, c'est puisque la question sur le fonds d'aide à la création cinématographique m'a été posée. Je voudrais dire que, effectivement, la francophonie a lancé son appel à candidature pour ce fonds. Et justement parce que notre compatriote Ingrid Agbo a eu à bénéficier de ce fonds en 2018. Et c'est à partir de ce fonds qu'elle a pu réaliser ce film qui a été produit par une maison de production, justement burkinabé, le PITS. Et donc, ce fonds est lancé et ça court du 27 février au 31 mars. Et donc, c'est un appel à tous les jeunes cinéastes, producteurs, de concourir pour pouvoir bénéficier de ce fonds qui leur permettra d'assurer une production en bonne et due forme et pouvoir être compétitif lors de ces festivals de
merci,
cinéma.
Merci du cinéma. Nous continuons avec la production littéraire avec un autre prix. Il s'agit du prix littéraire Komla Mensah Nubukpo Théâtre 2023 qui vient d'être lancé. L'initiative du Festival international des lettres et des arts de l'Université de Lomé qui a annoncé donc le lancement de ce prix littéraire Mensah Nubukpo Théâtre 2023 qui a commencé à courir depuis le 1er février et qui va prendre fin le 15 mars prochain. Les candidats ont encore deux semaines pour soumettre leurs œuvres. Ce prix donc créé en hommage au professeur Komla Mensah Nubukpo, doyen honoraire de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Lomé, pour son investissement exceptionnel dans la promotion de la littérature créatrice et du genre humain au sein de l'Université de Lomé et bien au-delà. Et le prix a été lancé depuis 2019. Et la précision, c'est que l'édition 2023 porte essentiellement sur le théâtre. Eric.
Oui, justement parce que c'est rotatif. Chaque année, on prend une œuvre littéraire, sinon un genre littéraire, pour soumettre à ce prix. Et donc, cette année, c'est le théâtre qui est à l'honneur. Donc, l'année prochaine, ce sera le roman. Et après, en 2025, ce sera la poésie. Et donc, c'est un peu rotatif. Et chaque année, on prime un genre littéraire. Donc, je crois que, véritablement, à l'Université de Lomé, le Festilar, c'est pour inciter les jeunes à écrire, inciter les jeunes à faire valoir leur imagination, parce que ce n'est pas forcément de la littérature africaine ou européenne ou je ne sais pas quoi, mais c'est toute la littérature dans toute sa complexité et dans toute sa richesse qu'on prime au cours de ce festival de l'Université de Lomé.
Merci vivement que l'État, bien sûr, mais également les mécènes, les entreprises qui devraient aménager des lignes pour sponsoriser la culture, mais ceux qui ont de l'argent à ne savoir pas qu'en faire, pour promotionner un jeune écrivain, un jeune cinéaste, un jeune danseur, un jeune peintre, parce qu'un État vaut autant par son économie et sa puissance militaire, mais un État vaut également autant par sa production littéraire, oui, artistique et culturelle.
Ça, c'est quand tu le dis, c'est le cas de cette dame-là qui est passée, la Camerounaise qui est passée à l'Institut français du Togo ce week-end, Djaili Amadou Amal,
oui,
qui a commencé, elle est peul, elle est musulmane pratiquante, mais elle a pris une option de défendre la femme dans tout ce qu'elle est, c'est-à-dire tout ce que la femme subit déjà au foyer, etc. Ça veut dire qu'elle dénonce ce qui n'est pas bien dans sa communauté. Et donc, elle a créé une association qui s'appelle Sahel. Et donc, à partir de là, elle fait beaucoup de choses et elle écrit. Et donc, parce que cette dame-là a été soutenue par des éditions, une édition qui se trouve au Cameroun, cela a été repris par d'autres éditions internationales. Et aujourd'hui, cette femme-là, elle est
ambassadrice des arts, mais également ambassadrice de son pays. Elle était à Lomé, elle a terminé sa tournée de conférences hier. Nous souhaitons vivement que, de par les appuis, on puisse permettre à des talents d'éclore. Ces talents que nous formons dans nos écoles, aussi bien publiques que privées. Et Dieu seul sait si les écoles privées, confessionnelles, laïques et autres appuient l'État togolais dans la formation de notre jeunesse. C'est dire que nous ouvrons à présent la page formation scolaire avec pour lancer le sujet, cet article fait par le confrère La Nouvelle Tribune il y a quelques jours, qui était intitulé École privée, l'Alliance des professionnels de l'enseignement privé laïque du Togo l'Alliance des professionnels de l'enseignement privé laïque du Togo, qui avait annoncé une tournée de sensibilisation et d'échange avec les promoteurs des établissements d'enseignement privé pour discuter d'un certain nombre de thématiques. Le sujet nous a intéressé. Nous avons voulu en parler aujourd'hui avec Monsieur Bruce Kwasi Essam. Bonjour.
Bonjour. Ça,
vous êtes le président de cette alliance-là.
Exactement.
Merci. Eh bien, comme l'écrivait le journal La Nouvelle Tribune, vous avez annoncé une tournée qui devait vous conduire auprès des promoteurs, je présume, d'établissements privés laïques de tout le Togo, avec un certain nombre de sujets à débattre. Alors dites-nous, est-ce que la tournée a pu avoir lieu?
Oui, merci Sass. Nous avons effectivement démarré la tournée, d'abord dans toutes les inspections de Lomé, dans la direction régionale de l'éducation Golfe Lomé. Et il nous reste seulement deux inspections à parcourir et nous allons remonter vers l'intérieur du pays.
Donc la tournée est démarrée.
Est démarrée.
Et vous allez, après Lomé Golf, vous allez continuer.
Exactement.
Pour embrasser et embraser tout le Togo avec vos sujets de formation. Alors pourquoi une tournée auprès de vos collègues promoteurs d'établissement?
Justement, depuis l'année scolaire passée, je veux dire 2021-2022, il y a un certain nombre de notes de service signé par notre ministre de tutelle et malheureusement qui sont mal comprises par les promoteurs, en tout cas par les acteurs de l'éducation au Togo. Donc nous avons été associés surtout au début de cette année à des échanges avec les responsables du cabinet sur le fait que certains établissements ne respectent pas ces notes de service. Et nous avons vu que certains enseignants ou certains directeurs d'école ont été tout simplement remerciés. Mm-hmm. Bon, donc, face à cette situation, nous avons demandé et obtenu une autorisation auprès du ministre pour rencontrer les promoteurs et leur expliquer le contenu de ces notes de service et l'impact que ces notes doivent en principe avoir sur la vie des écoles privées laïques du Togo.
Et justement, quelles sont les thématiques contenues dans cette note de service que vous avez portée ou bien que vous avez commencé à porter auprès de vos collègues?
C'est ça, nous avons retenu fondamentalement 6 thématiques. Premièrement, il y a l'importance des autorisations d'enseigner et de diriger. Mm-hmm. Aujourd'hui, pour enseigner, il faut avoir une autorisation.
Et qui délivre la dite
autorisation? C'est le ministre de tutelle. Mm-hmm. Ensuite, la transformation des ENI, École Normale d'Instituteurs, en ENFPE, des Écoles Normales de Formation de Professeurs d'École. Et l'impact que cela aura sur la vie des écoles privées laïques 2 ans plus tard. La troisième thématique que nous développons, c'est les cours de répétition payants qui sont aujourd'hui interdits et que nos collègues ne comprennent pas. Ensuite, nous parlons de la violence en milieu scolaire, notamment de l'utilisation du bâton qui est proscrite dans l'éducation au Togo. Alors, le cinquième point, c'est le permis de construire que le cabinet nous demande de produire, permis de construire de nos bâtiments scolaires. Et enfin, sixième point, c'est le SMIG qui passe de 35 000 à 52 500 et le comportement que doivent avoir les promoteurs d'école pour pouvoir aller vers ce SMIG et les jours ou les années à venir.
Alors justement, nous avons connaissance de ces notes de service dorénavant. Un promoteur d'école privée doit avoir un permis de construire pour s'assurer que les installations sont dans les normes. Oui. Les enseignants qui enseignent dans l'établissement doivent être reconnus par le ministère. Oui. Le bâton interdit dans les écoles. Également, les cours de répétition payants sont interdits et bien d'autres. Eh bien, quand vous avez commencé cette tournée auprès de vos collègues, quel est l'accueil que vous recevez auprès des promoteurs?
D'abord, nous reconnaissons que beaucoup de promoteurs se présentent à ces réunions-là. Et ensuite, lorsque nous expliquons le contenu de ces différentes notes de service et ce qui les sous-tend, l'accueil est très favorable. Parce que beaucoup n'avaient pas compris. Et donc, les gens, les promoteurs et les directeurs d'école ont accueilli favorablement, cette fois-ci, ces interdictions ou ces notes de service.
Mais il va de soi que, je ne sais pas si tous les enseignants qui officient dans vos écoles privées ont aujourd'hui une notification du ministère. De deux, est-ce que toutes vos installations, tous vos bâtiments peuvent brandir un permis de construire? Et puis, trois, depuis que le nouveau SMIC est entré en fonction, est-ce que vous arrivez à payer au moins le SMIC à tous ceux que vous employez?
Bien, d'abord, concernant l'autorisation d'enseigner et de diriger, en fait, c'est un test qui existe depuis, seulement qui n'est pas respecté.
Donc, c'est pas Kokoroko qui a inventé ça?
Non, du tout, du tout. Ça existe dans l'arrêté et régularisant les agréments des établissements privés laïcs. Donc, depuis 1997, il est demandé aux enseignants d'avoir une autorisation d'enseigner et aux directeurs d'avoir une autorisation de diriger. Parce qu'on suppose que la seule compétence ou bien le seul diplôme académique ou professionnel ne suffit pas pour devenir enseignant nécessairement. Vous savez aujourd'hui que beaucoup sont dans l'enseignement, surtout privé, laïque, et sous forme de tremplin. Ils sont là en attendant de trouver mieux. Et nos enseignants, il faut le reconnaître, ne sont pas très bien formés. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, le test qui existait déjà a été réveillé pour savoir d'abord qui est qui et qui fait quoi. Et avoir une statistique concernant les enseignants du privé laïque. Alors, ensuite, lorsque vous parlez du permis de construire, également le test concernant le permis de construire existe depuis 1967 au Togo.
67. Avant la naissance de Sam Diobo ici.
Avant la naissance de Kokoro.
C'est le décret numéro 67/228 du 24 octobre 1967. Mm-hmm. Seulement que ce test-là n'a jamais été respecté. Même concernant nos constructions, nos maisons, on n'a jamais pris de permis de construire au Togo avant de construire sa maison. Bon, donc, l'école étant un milieu à risque, surtout pour les élèves, alors le ministre a tout simplement réveillé ce test-là et a demandé que les promoteurs présentent un permis de construire. Seulement,
oui.
Seulement que le permis de construire devrait en principe être pris avant de le
avant la construction du bâtiment.
Maintenant que les bâtiments existent, mm-hmm. on ne parle plus forcément de permis de construire, mais c'est permis de régularisation des constructions. Alors, il s'agit, n'est-ce pas, de s'appuyer sur un architecte agréé qui va venir contrôler l'immeuble si ça respecte aux normes et si la sécurité des enfants est garantie et donc et produire, n'est-ce pas, un agrément pour dire que vos bâtiments sont en règle, donc les enfants peuvent sans risque fréquenter. Et donc, voilà de quoi il s'agit.
Alors, justement, et si le bâtiment ne répond pas aux, disons, aux critères sur lesquels l'architecte devrait valider, il se produirait quoi alors?
Non, en réalité, le rôle de l'architecte, c'est de reprendre d'abord les plans,
oui.
ensuite de s'appuyer sur un ingénieur aussi en bâtiment,
oui.
pour voir si les constructions sont solides, et faire des recommandations au cas où il y a des problèmes. L'architecte doit d'abord faire des recommandations au promoteur. Peut-être qu'il faut casser une classe pour permettre une bonne aération, ou permettre une bonne luminosité des classes. En tout cas, l'architecte va faire ce travail-là avec le promoteur préalablement. Si lui, il agrée le bâtiment, et, ou bien il donne son agrément, et ça veut dire qu'il a trouvé qu'il n'y a plus de problème.
Monsieur Bruce, je ne suis pas architecte, mais à vue d'œil, il y a plein d'écoles privées aujourd'hui qu'aucun architecte qui se respecte ne validerait, dont il ordonnerait plutôt, disons, la démolition et une reconstruction totalement.
On va attendre de voir. De toute façon, la sécurité des citoyens togolais passe en priorité.
Merci. Maintenant, pour ce qui est du SMIC.
Bon, le SMIC, c'est vrai que nous ne sommes pas préparés à cette éventualité. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut reconnaître au Togo, et c'est que les écoles privées laïques sont très moins chères. Et ceux qui ont créé...
Pas les écolages que vous percevez.
Pas les écolages, c'est ce que je veux dire. Et ceux qui ont, bien sûr, tout à fait, ceux qui ont créé les écoles privées laïques n'ont pas tenu compte des charges avant de le faire. Alors maintenant, face à certaines charges, eh bien, beaucoup ont dû fermer leur école. Quoi qu'on pense, on pense qu'il y a beaucoup d'argent dans ce système-là, mais il faut comparer nos écolages à d'autres réalités, vous allez comprendre. Alors, les écolages se situent entre 25 000, 30 000, 35 000. C'est vrai qu'il y a de rares établissements où vous allez trouver des écolages assez élevés. Mais lorsque vous voyez la plupart des établissements, la fourchette, c'est entre 25 000 et 35 000 au primaire. Donc, alors, maintenant, à partir de janvier, on doit passer de 35 000 à 52 500, presque la moitié.
Et là, c'est le SMIC, hein?
Oui, c'est ce
c'est
que
le salaire
dis.
Minimum.
Exactement. Mm-hmm. Exactement. Donc, une augmentation de 50% et même plus de 50% si on doit considérer les charges patronales de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, vous comprenez qu'en pleine année scolaire, le budget ou bien les budgets étant déjà faits, il est difficile aux promoteurs de changer directement le cap. Maintenant, nous demandons aux promoteurs de se préparer, peut-être pour la rentrée prochaine, et surtout de parler avec le personnel enseignant pour qu'il puisse patienter. Et il appartient au promoteur de faire sa programmation, ce qui est sûr. La rentrée prochaine, on va connaître des augmentations au niveau des écolages pour que cela puisse se faire ressentir sur le salaire des enseignants.
Merci, monsieur Bruce Essan. Eh bien, chers confrères, vous avez écouté le président de l'Alliance nous dire l'objet de cette tournée, les sujets hein, qu'ils ont commencé à développer auprès de leurs camarades. Et on peut voir les petites difficultés sur le terrain et comment arriver à bout. Isidore?
Non, j'avoue que je suis resté sur ma soif. Et, par son développement, je me souviens que quand on était tout petit, avant de créer une école primaire, laïque, privée, mais il y a des normes. Il y a des normes. Parmi lesquels se trouve la cour de récréation, un stade, enfin,
un terrain de jeu.
Mais aujourd'hui, si on prend ces normes-là, beaucoup d'écoles vont fermer leurs portes.
Oui.
Mais ce diagnostic-là, vous ne l'avez pas fait. Et vous parlez plutôt des bâtiments.
Vous allez noter les bâtiments, des confrères, et puis vous allez ramasser.
Mais c'est pour ça que je suis resté sur ma soif. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, il suffit de prendre... Bon, je vois des écoles privées qui sont sur un lot ou deux lots. Mm. Mais les enfants sont agglutinés dans le bâtiment. Il n'y a même pas de cours de récréation. Mais comment les enfants vont être épanouis?
Merci. Et Sam Diobo?
Oui, moi, j'ai deux ou trois petites observations en rapport avec ce que M. Brousse a dit. D'abord, il parlait des écoles privées laïques qui ont des écolages très bas. Mm-hmm. Là, je m'inscris en faux parce que nous tous ici, on a des enfants Les écolages sont extrêmement chers. Maintenant, pour prendre les écoles privées, les gens font souvent le procès aux promoteurs des écoles de se comporter un peu comme en colon vis-à-vis de leurs enseignants. Vous avez dit que les enseignants sont très mal formés, alors que c'est vous qui les recrutez. Alors ça veut dire que vous acceptez de prendre des enseignants pour donner une éducation au rabais aux enfants des gens et des gens à qui vous n'êtes même pas capable de payer le SMIC. Parce que selon la décision gouvernementale, le SMIC est censé commencer par être payé en janvier.
Maintenant, janvier 2023.
Maintenant, vous projetez votre SMIC à l'année prochaine. Je ne sais pas si vous êtes en marge des décisions du gouvernement ou qu'est-ce que vous voulez faire. La dernière chose, c'est que les enseignants qui interviennent dans les écoles privées ne sont pas payés durant les vacances. Alors, quelle solution vous préconisez, vous, au niveau de la fédération?
Ils ne sont pas payés durant toute l'année. Bon nombre ne sont pas déclarés à la caisse de sécurité. Ouais. Nous ne parlons pas d'assurance accident ou maladie et autres. Eric?
Alors, moi, je vais rebondir un peu sur les ENIC qui sont devenus des ENFPE. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Ça s'entend que les enseignants que vous avez aujourd'hui et qui n'étaient pas passés par les ENI ou qui sont appelés...
En fait, de recyclage.
Voilà. Qu'est-ce que vous préconisez pour ces enseignants-là qui ne sont pas passés par là? Alors, la deuxième chose, vous avez parlé de la violence dans les écoles. Qu'est-ce que vous entendez par violence? C'est l'éducation avec le bâton ou bien c'est les violences que les enfants se font entre eux ou bien des professeurs sur les enfants en dehors du bâton qui éduque que nous avons connu?
Merci, monsieur Brousse. C'est une question que je vous prie de synthétiser en 2 minutes.
Oui, c'est ça. Bien, vous avez parlé des normes, les normes de construction. C'est vrai que ces normes-là existent. Je viens de dire...
Existent sur le papier.
Sur le papier, le Togolais n'a pas l'habitude de respecter les tests. Et c'est par rapport à ces différents dysfonctionnements que le ministre de tutelle est en train de faire des efforts pour les corriger. Pour les corriger sur le terrain. Je reconnais que pour une bonne construction, pour avoir un établissement scolaire, il faut de l'espace, il faut une cour de récréation, il faut un certain nombre d'éléments, de choses, mais qui ne sont pas respectés. Comment les écoles, à un moment donné, ont commencé à se créer? D'abord, c'est à partir de 1990 qu'il y a floraison des écoles privées laïques. Il y avait des problèmes. Donc, ceux qui ont pu ont commencé par avoir des clés, parce que, vous savez, l'école est aussi un facteur de développement des milieux. Donc, quand vous sortez un peu de Lomé, vous allez au niveau des périphériques, les gens ont acheté des terrains. Mais une fois qu'on implante un établissement scolaire, les gens commencent à construire tout autour. Donc, c'est un facteur de développement. Donc, quelqu'un qui a pris sur lui, avec ses maigres moyens, de construire une école, il est d'abord à féliciter. Seulement qu'il n'a pas suffisamment de moyens pour respecter les normes. Ce qui se passe actuellement, c'est de conduire progressivement les promoteurs à respecter les normes.
On commence par le féliciter, ensuite on l'encourage.
Exactement, à corriger ces dysfonctionnements-là sur le terrain. Alors, nous avons dit que les enseignants ne sont pas forcément bien formés. Parce que nos enseignants, nous les recrutons peut-être après le BPC ou bien après le bac. Ils sont formés sur le tas. Après, ils passent des examens professionnels. Si c'est le BPC, on a le CEAP, le CAP. Si c'est le bac, on a d'autres examens professionnels également, le CAP. Et ils sont utilisés. Seulement que, étant donné qu'ils n'ont pas fait des écoles de formation d'enseignants, il leur manque beaucoup de notions. Par exemple, la psychologie des enfants, la morale professionnelle. Il y a beaucoup de modules qu'ils ne font pas. Donc, ce qui fait que, en fait, c'est un milieu, nous faisons beaucoup d'efforts. Les écoles privées soutiennent beaucoup l'État, parce qu'à Lomé, plus de 80% des écoles sont privées laïques. Donc, on reconnaît qu'on fait beaucoup d'efforts. Seulement, pour améliorer les prestations, eh bien, je crois que c'est dans cette optique qu'aujourd'hui, les ENI ont été transformés. Maintenant, c'est des écoles ouvertes.
Alors, justement, et c'est là qu'intervient la question de Eric.
Oui, c'est ça.
Est-ce à dire que maintenant que vous allez envoyer vos enseignants se faire recycler dans...
Non. En fait, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui a le bac, il peut s'inscrire dans une ENFPE. Comment s'inscrire à l'université?
Oui, à la charge de qui?
À sa charge. Il paie sa formation et il sort professeur d'école. Ça veut dire qu'il a choisi d'être enseignant.
Mais disons, l'enseignant déjà qui est sur le terrain depuis 5, 10, 20 ans.
Il est toujours là.
Oui.
Il est toujours là. Il a passé ses examens professionnels. Il est là.
Ok.
Sous-formé. Donc ça veut dire que dans deux ans.
Sous-formé.
Oui. Vous savez, en matière de pédagogie, les inspecteurs, le corps d'encadrement, ils font beaucoup d'efforts. Ils donnent les outils à ceux qui sont rentrés sur le tas.
Mm-hmm.
Okay. Mais c'est insuffisant. Uh-huh. Alors maintenant, l'objectif de l'État, je crois, c'est que d'ici 2 ans, 3 ans, qu'on ait des gens mieux formés dans le système. Je crois même que les concours de recrutement de la fonction publique seront orientés vers ces professeurs d'école qui vont sortir de ces écoles-là.
Okay.
Et donc, c'est parmi ce groupe-là que nous aussi, en tant que privé laïque, nous allons recruter nos enseignants. Donc voilà en fait ce qui est en train de se faire.
Merci.
Une question en relation avec ce développement-là. Oui. Et qu'en est-il de DIFOP? À l'époque, il y a des étudiants qui font la pédagogie, direction de la pédagogie. C'est Mais ça. Quelle est la relation? Quand un étudiant est nanti d'un diplôme de DIFOP, est-ce qu'il doit encore aller dans ces structures?
Non. La DIFOP, c'est une structure que je ne maîtrise pas.
Merci. Ah, okay. Eh bien, revenons terminer avec les écolages dont vous dites que c'est très bas et dont les parents se plaignent pendant que vous avez tous les maux du monde. Hein, pour payer au moins le SMIC à vos agents.
Oui, je dis que c'est une bonne chose que le SMIC soit payé parce que nos enseignants souffrent. Il faut reconnaître que c'est un corps qui est sous-traité, disons même maltraité. Et seulement, ce que nous sommes en train de dire, c'est que l'augmentation du SMIC est intervenue en pleine année scolaire. Vous comprenez que Nous ne disons pas aux gens de ne pas respecter le SMIC, mais nous disons aux promoteurs de discuter avec le personnel, de faire une programmation pour que, à la rigueur, à partir de la rentrée prochaine, que quelque chose soit senti, que les enseignants puissent sentir qu'effectivement il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Et cela nécessairement doit passer par des augmentations d'écolage.
Et ainsi, vous pourrez payer tous vos agents, aussi bien les enseignants que le personnel administratif. Hein, vous allez les payer maintenant durant toute l'année, les 12 mois, les déclarer à la caisse de sécurité sociale et également souscrire à leurs bénéfices les assurances qu'il faut.
Le souhait de l'Alliance, c'est ça.
Ah, c'est, ça reste un souhait.
Oui, c'est le souhait. Nous sommes une association. Ouais. Nous ne pouvons pas parler au nom de tous les professeurs, tous les promoteurs.
Oui.
Donc, c'est notre souhait. Notre souhait, c'est d'aller vers là. Actuellement, il y a déjà des établissements qui paient 12 mois sur 12. Mm-hmm. Il y a des établissements qui ont déclaré leur enseignant à la Caisse nationale de sécurité sociale. Mm-hmm. Nous encourageons ces efforts-là.
Merci, voilà. Monsieur Bruce. Permettez que je vous félicite pour ce courage. Hein, de reconnaître un certain nombre de difficultés en votre sein et puis vous en parler vous-même à vive voix, c'est qu'on vous entende et qu'on vous vole au secours, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça.
Merci. Eh bien, cette information très importante, nous avons des informations récurrentes et recoupées que sur la nationale numéro 1, au sortir de Adetikopé, il se crée un bouchon au niveau de la PIA. Hein, nous le disons pour que ceux qui prendraient le guidon ou bien le volant pour s'aventurer là, il y a un bouchon sur la nationale numéro 1 au niveau de la PIA.
C'est dû à quoi?
Là, je ne sais pas encore. Si déjà on peut trouver un contournement pour ne pas aller se perdre dans le bouchon, c'est juste cette information utile. Et nous continuons pendant qu'il sonne. 11h43 minutes, nous ouvrons la page de l'acte 4 du Forum des producteurs agricoles du Togo que la région centrale et son chef lieu Sokoné, la capitale de Sam Diobo, viennent d'accueillir. Et là-dessus, il y a une assez abondante littérature dans les journaux. Jugez-en vous-même. Quand Miroir Info écrit, Forum des producteurs agricoles du Togo, région centrale, accueil royal et recommandations au cœur du passage de Fort Niassingbé à Sokoné. Pour sa part, Vision d'Afrique, lui titre FOPAT, le modèle régional togolais a fait forte mobilisation à Sokoné. Autre journal, c'est Le Médium qui écrit que les producteurs de la région centrale se disent satisfaits de l'écoute de Fort Niassingbé. Pendant que Jeunesse Info écrit lui aussi Fort Niassingbé qui dit, citation, Fort Niassingbé agréablement touché par la chaleur de l'accueil des populations de la région centrale. Libération, lui, titre, les producteurs de la région centrale satisfaits de la rencontre et témoignent leur gratitude au chef de l'État. L'éveil de la nation, Sam Diobo, l'éveil de la nation qui fait un numéro spécial, à la manchette, je lis, spécial Tchaoudjo, les actions phares du chef de l'État dans le secteur agricole. La région centrale que l'évêque de la nation nous présente en matière de superficie et de la surface cultivable disponible, également les grandes productions agricoles de la région et également les potentialités et prouesses agricoles de la préfecture de Tchaoudjo personnellement. Sam?
Oui, vous savez, avant de répondre à votre question, il faut d'abord reconnaître que le samedi, c'était une véritable marée humaine qui s'est déferlée sur les artères de la ville de Sokoné, venant de toutes les préfectures, donc de la région centrale, pour accueillir le chef de l'État, qui a foulé le sol de Sokoné dans les encablures de 9 heures pour rencontrer d'abord les chefs traditionnels. Après, il s'est dirigé vers le stade. Mais avant d'arriver au stade, à 3 kilomètres du stade, il était obligé de descendre de son véhicule pour marcher.
Vous avez obligé le chef de l'État.
Non, le chef de l'État était impressionné par l'accueil.
Il était obligé.
Il a vu une véritable marée humaine. Et vous savez, le chef de l'État, il aime se confondre à sa population. Donc, il voudrait pas être dans le véhicule et que les gens soient au bas côté de la route. Donc, il est descendu. Il a marché, pour ceux qui connaissent Sokoné, de l'UTB du Carrefour, UTB, jusqu'au stade. Alors, quand il est arrivé au stade, toute la population qui remplissait toutes les tribunes et tous les apatams confectionnés pour l'occasion étaient en transe. Des groupes folkloriques, des tam-tams par ici.
Attention, il n'y a pas longtemps, il y avait Adossa Gadao.
Oui, Adossa Gadao, ça dit que c'était un bis repetita de Adossa Gadao parce que le stade était immensément comble. Tout ce que je dis, je le dis avec l'autorisation de Eric Johnson qui était parmi les journalistes qui étaient venus couvrir l'événement.
Oui.
Donc le chef de l'État, il était émerveillé. Ça, c'est le premier niveau. Après tout le cérémonial, les discours et tout, il a rencontré les producteurs agricoles avec qui il a discuté sans filtre. C'est lui-même qui posait des questions et des réponses lui étaient données. Par exemple, quand on parle des lourdeurs au niveau du processus de distribution des engrais, lui-même, il a posé la question parce que les producteurs ont émis le vœu que le processus soit beaucoup plus accéléré. Il a donné la parole au ministre de l'Agriculture, Begbeni, à qui nous adressons nos satisfaits au passage, parce que c'était une parfaite réussite, la quatrième édition du FOPAT à Sokodé. Donc, le ministre Begbeni a dû expliquer qu'il y a certains esprits mal intentionnés qui prennent l'engrais au Togo et qui vont le vendre ailleurs parce que justement l'engrais est subventionné dans notre pays. Au lieu que le sac de 50 kilos coûte 35 000, on le vend ici à 18 000 et certains ont trouvé le vilain plaisir de l'acheter ici et d'aller le revendre hors des frontières. Donc il faut au moins s'assurer que ceux qui viennent pour acheter l'engrais sont des producteurs. Ensuite, il faut qu'on voit les superficies qu'ils cultivent, parce qu'on ne peut pas donner un sac d'engrais à quelqu'un qui cultive 100 hectares. Donc il faut s'assurer de tout ça là. Et ça occasionnait des lourdeurs. Et donc on a trouvé des solutions avec les producteurs. Le chef de l'État a fait une proposition pertinente, saluée par les producteurs. Au-delà de ça, il y a aussi la recherche de financement. Les gros producteurs ont soumis le vœu, ils ont demandé, ils ont souhaité qu'il y ait une banque agricole dans notre pays. Et je crois que les réflexions sont en cours à ce niveau. Merci. Maintenant, parlons de la mécanisation. Parce qu'il est question de la production et de la transformation agricole. Vous savez que des efforts sont faits énormément au niveau des programmes PASA, PADAT et autres. Il y a des programmes qui réfléchissent sur comment mécaniser l'agriculture togolaise. Et dans ce cadre, il y a eu des réflexions qui ont été discutées avec les producteurs. Et l'idée pour le gouvernement, c'est de mettre sur pied des zones de stockage des machines qui vont acquérir et que les producteurs, à chaque début de campagne,
merci chacun pour puisse ce compte pouvoir, rendu aussi bien prendre. Écrit qu'oral. Mais Sam Diabo, on peut chercher à savoir, le chef de l'État était allé à Sokodé pour rencontrer les 400 producteurs agricoles et les chefs traditionnels. Alors, la foule si immense qu'elle a dû contraindre le chef de l'État à descendre de son véhicule pour marcher sur 3 km, qu'est-ce que la foule venait chercher à un forum où il n'était question que de dialogue entre le chef de l'État et les producteurs?
Alors, ce que moi je voudrais dire à ce propos, c'est que ça veut dire que la population de la région centrale adhère à la vision agricole du chef de l'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous avez foulé le terrain et que vous avez eu à rencontrer certains producteurs, vous allez vous rendre compte que nous perdons notre temps à rester dans nos bureaux, que la richesse même se trouve dans la terre. Je vous donne un exemple. Il y a un monsieur qui est à la tête d'une coopérative qu'on appelle Main de Dieu, à Sada, dans la préfecture de Tchaoudjo, que j'ai rencontré personnellement, et son groupement exploite 210 hectares de ZAP, zone agricole aménagée, planifiée. 210 hectares. Alors, le monsieur, il me dit que lui, il est plus riche qu'un fonctionnaire. Je me pose la question et puis il m'explique. Ça veut dire que la population adhère.
Je comprends que les gens adhèrent à la politique agricole et que les gens s'y investissent et que ça produit bien. Mais la foule immense qui est venu à Sokodé jusqu'à contraindre le chef de l'État à descendre de sa voiture pour marcher.
Alors, si la foule ne sort pas, comment le chef de l'État saura qu'il est sur une bonne lancée? Moi, je pense que c'est un signal pour dire au chef de l'État, le chemin que vous avez emprunté dans le domaine du développement agricole, continuez-en, nous sommes derrière vous.
Merci.
C'est ça le message.
Mais je comprends présent. Donc, l'Union, Eric, ton papier a effectivement retracé les échanges. Les termes dans lesquels les paysans ont posé le problème des lourdeurs de l'accès à l'engrais et la solution que le chef de l'État a pu trouver en même temps, et également les garanties que les paysans ont souhaité en matière de financement de leur secteur agricole et également la mécanisation et les premières transformations. Un article assez bien fait. Félicitations à l'auteur. Je sais que ce n'est pas toi qui as écrit.
C'est lui-même.
Non, c'est pas lui. Il n'écrit pas bien comme ça.
Merci beaucoup. Ça, je pense que depuis que ce forum a commencé, très sincèrement, on ne s'y intéressait pas parce que derrière...
Si, je m'intéressais depuis.
J'explique pourquoi. Et parce que derrière, on voyait une pré-campagne du chef de l'État. On se disait, oui, il allait faire un bain de foule, il allait juste toucher les gens et tout. Mais quand vous entrez sous la tente dressée à cette occasion et que vous écoutez les échanges du chef de l'État avec les producteurs agricoles, là, vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Alors, Le faux pas en soi, c'est des échanges d'abord avec les investisseurs, avec les structures décentralisées de l'État,
les partenaires
et tout ça. Mais après, il y a quand même, comment je peux dire, un résumé de tout ça qui est présenté devant le public. En réalité, la présence de tous ces gens-là au stade était quand même pour venir écouter ce qui a été fait au cours de ce forum-là.
Et donc, là, tu parles des recommandations issues du forum.
Et donc, quand on a fini les recommandations, une fois entré dans la salle, qu'est-ce qui se passe? Le chef de l'État dit, il prend les recommandations, il dit, je ne suis pas producteur agricole, mais je voudrais quand même comprendre ce que vous appelez, par exemple, sentir les engrais. C'est là où les débats ont commencé. Alors, il dit, expliquez-moi, en tant que producteur agricole, ce que vous entendez par sentir les engrais. Et là, un membre d'une coopérative s'est levé.
On va pas revenir sur tout le film des échanges, l'article là s'est bien synthétisé et publié dans ton journal.
C'est très important que les gens comprennent cela.
Oui.
Parce que, bon, donne-moi 2 minutes.
Le sujet est déjà dans le journal. Et puis Sam a déjà fait un long développement.
Ok. Et donc, dans la foulée, on a expliqué ce que ça veut dire. En réalité, c'est que les gens demandent les engrais, mais ils n'en trouvent pas. Pourquoi cette situation? On l'a expliqué.
Oui.
Et donc, après, ensemble avec le chef de l'État, et tout de suite, ils posaient des questions dans les réponses qui sont données. Alors, on a même interpellé le ministre des Finances, qui également a réagi sur les financements qui n'arrivent pas aux producteurs agricoles.
Oui.
Là encore, il y a eu un débat.
Avec tout ce qu'on demande aux producteurs et qu'ils ont du mal à fournir comme garantie.
Le plus important pour moi, c'est quand les partenaires au développement du Togo, comme la GIZ, comme la BAD et la FAO, ont pris la parole. Ces représentants ont pris la parole pour dire ce qu'ils vont faire. Et il y a eu une ou deux annonces, mais les gens ont dit clairement ce qu'ils peuvent apporter à notre agriculture.
Merci. Et également ce vœu émis par les producteurs que le Togo, que le pays leur crée une banque spécialement dédiée au financement de l'agriculture. Mais j'ai écouté hier sur Radio Lomé, la TVT également, un problème dont se sont plaints les producteurs. C'est que leurs champs sont ravagés par les animaux, par les troupeaux. Donc nous en parlons ici. Donc c'est un problème national. Les paysans s'en sont plaints devant le chef de l'État et le problème dépasse même la centrale parce que le journal Libération nous parle aujourd'hui de la petite de la Kéran, région de la Kara, avec les violences intercommunautaires entre les populations Lamba de la Kéran et les Bouviers, donc les villages de Kanteta, Narita et Pesside qui ont connu ces problèmes, ça a failli dégénérer, Dieu merci, de bonne volonté, comme le sieur Ouchancha à Ouima et les députés, les cadres de la localité qui ont appelé à l'apaisement. Mais c'est dit, Isidore, que ce problème-là des troupeaux qui ravagent les champs, c'est un problème national. Auquel il faut trouver une solution pérenne, en plus de tous les souhaits que les paysans ont eu le courage d'émettre devant le chef de l'État.
Non, pour le problème des troupeaux qui ravagent les cultures, c'est trivial. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ce n'est pas les transhumants. Ce sont les regadrés qui ont leurs troupeaux et qui déversent pour aller ravager les champs des pauvres cultivateurs. Mm-hmm. Maintenant, revenons à ces soi-disant forats. Moi, je suis estomaqué. Si après
17 ans d'exercice du pouvoir, c'est maintenant qu'on fait les constats.
18 ans.
Ah, oui, je dis après 17 ans.
Non, non, mais non, c'est 18
ans. Après 18 ans.
Non, d'accord. 2023 moins 2005, ça fait 18.
18 ans. Oui. Qu'on fait le constat, mais là, c'est grave. C'est très grave. Mais il faut combien d'années pour pouvoir faire le constat? C'est pourquoi je parle que c'est du folklore, ce qu'on est en train de faire là. Si vous prenez tous les faux. Attends. Si,
le folklore,
attends. Oui, 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 attends. Oui. Tu as parlé, je n'ai pas
entendu. Non, écoutant Isidore.
Si vous prenez toutes les recommandations ou les vœux de ces paysans ou cultivateurs ou agricoles, c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Je suis étonné qu'on puisse. Vous savez, la logistique, les transports, le logement, les frais de bouche, tout ce qu'on engrange dans ce folklore. On aurait pu résoudre un certain nombre de problèmes agricoles, notamment la maîtrise de l'eau. Mais où en sommes-nous? Les dangers ont été déjà faits. Pour développer l'agriculture, c'est la maîtrise de l'eau. Mais ayons des bassins, à défaut d'avoir des forages. Mais si on veut diagnostiquer le problème, mais il faut commanditer une enquête. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Moi, je n'en vois pas. Au Togo, dans les années 60, il y avait déjà un programme de développement agricole à travers JPA.
Le programme des
Jeunesse Pionnière Agricole,
oui.
Dont les centres étaient à Zébévi. Bon, les vestiges sont encore là. Ah, et qu'on appelle-t-on dans le Yoto, et j'oublie un peu le mais
bon, le JPA, c'était le programme de Sylvain Olympio.
Peu importe que ce soit.
C'est pour dire que.
Oui, et quand vous prenez une filière, toutes les chaînes de valeur sont élaborées. Hein. Et c'est pourquoi moi je croyais que depuis qu'on parlait des ZAP, on parlait des agropoles, on devait s'inspirer de ces expériences qui n'ont pas prospéré pour évoluer. Ce qu'on est en train de faire là, il n'y a rien de nouveau pour moi.
Merci. Donc, déjà, le Togo indépendant avait initié la jeunesse pionnière agricole avec les jeunes Togolais qui étaient envoyés en formation dans les kibbutz
israéliens. Oui,
malheureusement,
donc, c'était Amado Soko qui est devenu.
Mais une quinzaine d'années après, Feu Yadema avait lancé la révolution verte.
Ah oui.
Avec comme appui financier la Caisse nationale
de sécurité agricole,
la CNCA, ouais. Qu'est-ce qu'on en a fait?
Mais
aujourd'hui, maintenant, nous relançons. On a commencé par le forum du paysan. Maintenant, c'est le forum des producteurs agricoles.
Bis repetita.
Il semble même que, avec le temps, ce forum pourra être décliné jusqu'au niveau des préfectures pour que les contacts soient vraiment réels avec les
producteurs. Non, autre chose que je voulais relever. Nous avons du phosphate. Et on n'arrive pas à produire de l'engrais et organique. Et nous importons l'engrais chimique pour détruire nos sols. Mais quelle est cette politique agricole?
Bien, je présume que quand Isidore, qui n'est pas producteur agricole, en parle avec autant de verve, les premiers concernés devraient être pas nécessairement entrés en transe. Mais parler en termes vraiment réels pour que et le chef de l'État et ses collaborateurs comprennent que comprennent les réels défis liés à notre agriculture et pour que tous ces projets et programmes puissent prendre et qu'on ne parle pas 5 ans, 10 ans après nos faux pas que c'était encore des éléphants blancs. Mais il est déjà midi passé, nous allons devoir suspendre nos débats, le temps d'adresser un clin d'œil à nos partenaires, puis nous rebondissons avec les auditeurs qui pourront intervenir sur les deux numéros, le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75 et on pourra aborder tous les sujets, le forum agricole, mais les écoles privées qui reconnaissent leurs insuffisances et qui jouent la pédagogie et qui recherchent les moyens, sans oublier la culture avec laquelle nous avons démarré cette émission. Thomas.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Eh bien, la parole est à vous sur les deux numéros hein, que je vous ai rappelé, que vous connaissez déjà certainement. Thomas, premier auditeur.
Bonjour.
Bonjour.
Abonné.
Abonné, commis.
Oui, j'ai deux questions pour l'invité et puis une question pour M. Eric et puis M. Sa.
Ok, allez-y rapidement, s'il vous plaît.
L'invité dit qu'il y a la fourchette des écolages tourne autour de 30-35.
Bon, il dit que les écolages qu'ils perçoivent est en deçà de leurs besoins réels.
Voilà. Mm-hmm. Moi, j'aimerais savoir dans quelle zone de la capitale on peut retrouver ces écolages. Parce que dans la périphérique d'Anguera, nous sommes déjà à 45 000 mm-hmm. comme écolage et 5 000 frais d'inscription
okay.
par enfant en primaire.
Oui.
Deuxième préoccupation, c'est par rapport aux punitions.
Oui.
Quelles sont les alternatives que le ministère propose pour les punitions des enfants? Mm-hmm. Parce que on s'acharne sur le bâton sans pouvoir proposer les alternatives pour compenser ce que le bâton aurait fait en enseignement ou bien en éducation.
Oui.
Et là, pour les deux journalistes, j'apprends qu'ils étaient sur le terrain. Et quand vous avez posé la question sur la foule immense ou bien la marée humaine qui avait accueilli le président, je pense qu'ils se sont intéressés aux provenances de ces gens-là. Quelqu'un a dit que les chefs lieux ou bien les villages environnants, les gens sont sortis de là. Moi, je constate que on a pris des bus de 60 places ici à Loumé pour ramasser des gens à Loumé pour déverser à son collègue. C'est ce que moi j'ai constaté mm-hmm. le week-end sur la nationale numéro 1. Et pour preuve, on avait réquisitionné un bus de 60 places. Vous qui étiez sur le terrain et qui aime toujours les à côté des événements, est-ce que vous n'avez pas constaté cela?
Merci, merci, commissaire. Allô, s'il vous plaît.
Allô?
Laissez auprès de Thomas vos coordonnées.
D'accord.
Entre nous, d'accord? Merci beaucoup. Oui, le suivant?
Oui, Franck, bonjour.
Bonjour.
Moi, j'ai pas une question, mais je suis désolé. Hier, je ne suis pas du tout content avec vous. Vous savez, l'accord de paix, la déontologie, et vous le dites tous les temps, c'est le respect. En tant que les auditeurs, nous appelons pour des remarques et des analyses, et ça fait avancer le pays. Et vous voyez, donc, si la radio Club de presse est aussi, elle est aujourd'hui, c'est grâce à nous, les auditeurs. Vous voyez, les évangélistes, les pasteurs aussi peuvent quand même donner leurs analyses. Parce que le Togo appartient à tout le monde. Mais hier, vous avez coupé le téléphone à mon nez d'une manière qui n'est pas du tout bon. Ou bien vous ne voulez pas me recevoir, évangéliste Senghor, sur votre radio ou pas, on ne sait pas ça. Donc, je ne suis pas, il ne faut pas que ça aille comme ça.
L'ami Senghor, allô?
Là, je vous écoute.
Vous êtes là?
Je suis
là. Alors, vraiment, je vous dis tout mon bravo de dire vraiment tout haut ce que vous venez de dire là, sauf que. Vous savez, je suis au studio, c'est pas moi qui manipule les appareils. Et alors, je ne pense pas. S'il vous plaît, M. Senghor, ouais. Je ne pense pas qu'un technicien se donne le plaisir de couper un auditeur. Ça a dû être quelque chose d'indépendant. Mais voilà. C'est vous dire hein, tout mon bonheur que le Club de la Presse compte sur des gens aussi fidèles, attentionnés que vous et bien d'autres.
Merci beaucoup.
Nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Le suivant. Allô?
Allô?
Oui.
Allô, bonjour.
Ah, c'est ici?
Oui.
Oui, nous vous écoutons.
Senghor sacré. Bon, Diobo et les autres là, ils viennent nous pomper depuis des jours là. Ils viennent nous bourrer le mou. Avec cette histoire d'agriculture, il y a eu une foule monstre, tout ça là. Pourquoi? Hein? Est-ce qu'on en a besoin en ce moment-là de cette histoire de culte de la personnalité qui continue depuis la nuit des temps? Non, on n'en a pas besoin. Et puis, la foule qui est sortie là, si cette foule-là était sortie pour dire au président qu'ils sont fatigués de sa gouvernance, de la façon dont il gouverne et de lui-même, s'ils sont sortis là pour lui dire ça, Diobo va nous l'expliquer comment.
On va les mater.
Ouais. Et puis, je vais lire un passage de la Bible. Nous venons de Dieu.
Et si le club
la presse se trouve.
Oui.
Oui.
Non, c'est rappelé que le club la presse se veut laïque.
Oui. Oui.
Oui, allez-y, allez-y.
J'ai dit sur un passage de la Bible que ma sœur m'avait donné hier, là, elle me dit la Bible, nous venons de Dieu, quoi. Nous venons de Dieu.
Oui.
Et que le monde se trouve au pouvoir du méchant.
Mm-hmm.
Voilà. Okay. Et Senghor n'a qu'à nous l'expliquer demain quand il viendra sur l'antenne. Quand il va.
Merci
on
beaucoup.
On n'a pas besoin de tout ça, l'agriculture, machin. Non. On a besoin d'alterner et vivre heureux. Rentrer dans nos droits d'allocation, sécurité sociale. Et moi, les gens crèvent, hein. Ça, je vais te dire. Mais jeunes, pas jeunes, j'ai plein de. J'ai deux neveux qui sont morts il n'y a pas longtemps, 39 ans et 35 ans, parce qu'ils ont des soucis, ils sont dans la précarité, ils ne savent pas à quel sens se vouer. C'est à cause de la gouvernance.
Merci. Et si
il faut alterner.
Et si alors, et si elle est partie. Chade. J'allais le dire à mon personnel. Le suivant.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur Sass.
Oui.
Je m'appelle de Thévier. Je m'appelle monsieur Ben.
Ben, depuis Thévier.
Oui, oui.
Ok, nous écoutons Ben.
Oui, s'il vous plaît, j'ai une doléance envers vous là. Sur cette mission-là, très importante, très intéressante pour nous, les Togolais citoyens lambda.
Oui.
Ce n'est pas tout le monde, tout ce que vous expliquez dans le code de la presse, ce n'est pas tout qui comprennent tout sur le fond du problème que vous avez installé dans le truc.
Oui.
Est-ce que vous ne pouvez pas nous exprimer ça aussi dans nos langues vernaculaires?
Oui, Ben.
Comme Eve, Mina, tout ça, pour que nous aussi, nos mamans aussi comprennent ce qui se passe.
Justement, Ben.
Oui.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, la grande sœur d'ADD fait la même émission similaire entre 13h30 et 14h30 et c'est en Eve ou bien en Mina.
Oui, c'est différent ce que vous faites en français.
Non, c'est un peu la même chose. C'est la version un peu miwenegno du club de la presse, mais en Eve et en Mina.
Ok, ouais. Et ma deuxième préoccupation,
oui.
C'est ça que Madame ici vient de parler. J'écoute l'intervention de journaliste à Cologne, je sais pas. Hein. Mm. Oui, vraiment le chef de l'État, il veut raconter un ministère qui est concerné dans l'agriculture. Donc, est-ce qu'il ne peut pas bon que ce ministère, si le président va se déplacer? Est-ce que ce n'est pas bon que de déplacer le ministère qui est concerné seul et raconter avec les directeurs régionaux de ces régions pour qu'on s'occupe, s'en charger de ce qui se passe, le problème qui se passe concerné l'agriculture. On amène tout le monde, la population, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé pour aller recueillir le chef de l'État. Or, tout le monde... Nous votons pour le chef de l'État. Il est pour nous. Et tout le monde le... Mais le problème qui se passe, laissez le président seul aller raconter les agriculteurs et les directeurs régionaux seuls.
Merci
pourquoi
beaucoup.
Pourquoi tout déplacer, en fait, déplacer tous les ministères, tous les ministres, tout ça là, s'il y a un accident qui se passe au cours du chemin.
Oui, oui, oui.
C'est ça, il faut dire la réaction.
Merci.
On souffre.
Fofo
Ben. Les gens qui se déplacent pour louer les bus, là.
Fofo Ben.
Partout, là.
Fofo Ben.
C'est de crise.
J'espère que M. Ben n'est pas entré en transe. Hein. Donc, Ben, on ne peut pas tout dire aujourd'hui, mais je suis heureux que vous appelez aujourd'hui. J'espère que vous serez régulier avec nous et partagez vos réflexions avec nous. Après, quand vous vous ben. L'auditeur suivant.
Allô, bonjour, monsieur Sass.
Oui.
C'est pas ça, je n'ai pas
motivé. Bien, vous dire, mais oui.
Ah oui, voilà. C'est pour dire que je suis du cœur avec celui qui vient de passer.
Oui.
Pour ça, nous sommes tous au Togo ici. On est né au Togo, on a grandi au Togo. pour les magistrats de droit, pas ces journalistes-là. Tout le monde connaît comment ça se passe. Et bon, la brutalité, là, c'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Mm-hmm. Il faut voir la tête d'enfant. C'est la brutalité, là. Il doit parler, monsieur Isidore, qui a détruit l'école. Là. Donc, aujourd'hui, on manque d'engrais.
Merci.
Vous allez aller voir la tête d'enfant.
Merci.
C'est vraiment appauvri.
Merci.
Là, on veut d'engrais, on ne trouve pas.
Merci.
Bonne journée.
Papa Sajouné.
Oui.
Et votre ami Eric vous salue.
Ah, merci. Moi aussi, je le salue.
Merci.
Aujourd'hui, je le salue.
Merci. Le suivant.
Oui, allô.
Oui.
Bonjour, monsieur Sass.
Ah, c'est monsieur Kovi.
Oui, justement.
Avec votre accent chantant, là.
Merci beaucoup.
Oui.
Et, s'il vous plaît, monsieur Sass.
Oui.
À supposer que vous voulez animer une émission spéciale sur la sécurité, par exemple, l'électricité.
Sur
la sécurité.
Oui.
Juste un exemple.
Oui.
Et que vous voyez que votre studio est débordé d'autres invités que vous n'avez pas invités et qui veulent parler d'autres choses que ce que vous voulez faire. Vous trouvez ça normal?
Non, je les rencontre d'abord et puis on vient au studio pour parler de la CET.
Justement, ce qui s'est passé le week-end passé. Le chef d'État est allé travailler sur un problème qui se pose à notre pays. C'est pour résoudre un problème particulier. Et les gens sont allés l'envahir avec d'autres sujets, les félicitations autres. On n'est pas à cette étape. Nous voulons d'abord travailler là-dessus, faire manger le pays. Et on est parti à ramasser les gens pour aller chanter. C'est pas ça. C'est pas sérieux. On veut du sérieux. On veut du sérieux. Il faut un bon résultat. Et avec tout ce folklore, qu'est-ce que le chef d'État peut tirer dedans? Non, c'est pas sérieux.
Non, il a tiré que les gens adhèrent à sa politique.
Mais c'est pas ça. Les gens connaissent le chef de l'État. Il y a un temps pour les campagnes. Lorsqu'ils seront dans des campagnes, ils peuvent faire une campagne. C'est pas ça.
Merci beaucoup, l'ami Kofi. Nous allons prendre un dernier auditeur pour laisser le temps aux amis de vous répondre. Oui, bonjour l'ami.
Bonjour, c'est toi papa.
Ah, papa Sibiti.
Je suis à la pharmacie.
Fofana Changpana Yakubu.
Pour vos interventions.
Oui.
En tant que papa, monsieur, permettez-moi la pharmacie. Je vais demander aux gens d'avoir la modération. La modération, l'un directeur, vous avez été pédagogue. Ce qu'il y a, le président de la République, nous disons que ce côté-là, mais il est allé, soyons contents. Hier, une femme a dit, quand on vous donne un peu, prenez ça et il faut remercier.
Oui.
Il ne faut pas qu'il y ait de la brouille. C'est nous qui allons perdre, c'est nous qui allons gagner. Parce que je suis de ce côté, je suis fils digne de Didoré.
Oui.
Donc les gens ne mettent pas des bâtons dans nos roues. Voyons, nous n'avons aucune force. Tous ceux qui parlent n'ont aucune force. Aujourd'hui, c'est lui qui est là-bas. Vous ne pouvez pas le déplacer. Faisons ce que nous pouvons faire pour créer la paix.
Merci.
Mon directeur, merci beaucoup.
Papa Sibiti Fofana Changpana Yakubu. Merci, merci.
Allô?
Ah, le tout dernier auditeur,
oui,
bonjour.
Bonjour Didier.
Didier, oui.
Oui, bon, moi j'appelle seulement pour féliciter le monsieur de l'enseignement.
Oui.
Qui fait un grand boulot, qui fait un boulot dans lequel l'État a démissionné. Au lieu que l'État les encourage, on essaie de les mettre des bâtons dans les roues là. Sinon, on doit les féliciter tous les jours que le bon Dieu fait. Et dernièrement, je voulais poser deux questions à monsieur Sam Djoro.
Oui.
Si, comme Dassi l'avait dit, si les gens qui nous étions partis, les gens étaient partis protester contre la politique de l'État, ils vont les gazer ou bien les laisser faire. Secondo, je voulais lui demander si comme il a pu bien voir la foule, est-ce qu'il a vu, les militants du PNP parmi au stade pour venir féliciter le président. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors, le problème de la question de la grande foule est revenu à plusieurs reprises chez plusieurs auditeurs. Eh bien, 30 secondes à chacun, Sam Djobo et Eric, pour nous en parler.
D'abord, il y a un premier intervenant qui disait qu'il y a eu des bus qui ont transporté la population de Lomé pour amener à Sokodé.
Oui.
D'abord, c'est faire injure à la population de la région centrale. Parce que avant l'arrivée du chef de l'État, il y a eu la fête traditionnelle de Tchaoudjo et tout le monde a vu les images. C'est-à-dire Tchaoudjo seul avait fait le plein du stade lors de Adossa Gadao 2023. Alors, pour toute une région, qu'on vient nous dire qu'il y a un bus de 60 places qui a transporté les gens, c'est pas faux. Et c'est pas vrai, c'est faux. Parce que d'abord, le chef de l'État, avant son arrivée à 9h, les voies étaient bouclées. tous les véhicules qui venaient dans le sens pour rallier le nord étaient bloqués.
En somme, donc Charles et la centrale comptaient suffisamment de filles et de filles
pour encore transporter des gens de Lomé pour amener. Merci beaucoup. C'est faire un jour à la population.
Merci beaucoup.
La deuxième chose, il y a un dernier intervenant qui parlait de, il demandait si on a vu des militants du PNP.
Du PNP
dans ce que je sais, c'est que c'était une rencontre des producteurs, forum des producteurs agricoles. Ce n'est pas une rencontre politique. Et les, ceux qui sont venus n'avaient pas porté de t-shirt à l'effigie de quelque parti que ce soit. Je sais que c'est la population de la région centrale, sans distinction aucune, qui est venue accueillir le chef de l'État.
Merci. Eric Pissotti était aussi.
Moi, par rapport à ça, je vais dire à Tapamé, ce que j'ai vu, le chef de l'État, il rentrait dans son véhicule quand un militant, quelqu'un qui a porté un t-shirt orange, ça veut dire
ANC,
était en train de crier Monsieur le Président, Monsieur le Président. Il est descendu, il est redescendu, il a sorti pour son bain de foule.
Attaque pas mieux.
Eric,
attends, est-ce que le t-shirt était seulement orange? Ou bien
avec le logo ANC, je vous dis.
Et quand Fabien Sigouet est descendu, il est allé saluer
et tout ce monde-là.
Okay. Ça veut dire que c'est toute la population de la région.
C'est ce que Didier voulait savoir, si la même scène également.
Non, parce qu'il n'y en a pas eu, parce qu'il était là.
Ok.
Ni UNIR, ni PNP, ni rien.
C'est pour dire qu'en réalité, il faut que les gens dépassionnent un peu les débats. On parle des agriculteurs. Les agriculteurs ne peuvent pas venir avec leur manteau politique. C'est pas normal. Merci. Et on ne peut pas demander à tous ces producteurs agricoles-là d'être de unir. C'est pas normal. Faut pas
mettre
cette culture-là dans la tête.
Eh bien, Monsieur Bruce, beaucoup de questions pour vous. Est-ce que vous pouvez délimiter les zones ici dans le Lomé où vous percevez les écolages si bas?
Mais les écolages ici-bas existent un peu partout.
C'est pas seulement...
Nous appelons même parfois ça de la concurrence déloyale. Je vous donne mon exemple. Moi, mon établissement se trouve à Gouet de Makboué. Je l'ai créé en 97. L'écolage était à 20 000 quand je l'ai créé. 26 ans plus tard, je suis à 40 000. Ça passe juste du simple au double. Ce n'est pas normal. Quand 26 ans, l'écolage passe de 20 000 à 40 000, ça veut dire qu'il y a un problème.
Mais d'accord, mais est-ce que les revenus des parents de vos élèves ont cru dans les mêmes proportions?
Mais c'est pas les mêmes qui viennent.
C'est pas les mêmes qui viennent, justement, 26 ans.
Oui.
Donc c'est pour vous dire qu'il y a problème. Il y a un problème au niveau de l'école privée laïque au Togo. J'avais dit que certains établissements ont leur écolage un peu élevé.
Oui.
Il y a les écoles internationales et d'autres. Mais de façon générale, les écolages sont bas.
Merci. Alors, est-ce que vous-même ou bien le ministère, est-ce que vous réfléchissez à des alternatives aux punitions, notamment l'usage du bâton?
Au niveau de la PEPL, nous avons mis tout récemment sur pied une commission pour y réfléchir. Mais le problème du bâton est un problème sociologique propre aux Togolais. D'abord, nous disons habituellement que nous avons été tapés, donc il faut qu'on tape pour que le message puisse passer. Ce n'est pas normal. C'est déjà un problème qui est d'ordre psychologique et sociologique. Pourquoi? Parce que le Togolais même a été conduit comme ça. Le bâton est partout. Même au niveau du politique, toute décision qui est prise, il faut la pression. D'abord. Donc finalement, c'est ancré dans l'esprit du Togolais que si on ne lui met pas la pression, il ne peut pas travailler. Nous disons non. Parce que hier, quand on me tape dans la rue, quand je viens à la maison, je ne peux même pas le dire. Quand on me tape à l'école, je viens à la maison, je ne peux pas le dire. Mais aujourd'hui, un enseignant tape un élève à l'école, c'est le parent qui vient insulter l'enseignant devant les autres élèves.
Il y a mieux encore.
Le bâton.
Si l'enseignant tape,
la pire.
Il y a mieux pire, c'est ce nom. Quand l'enseignant tape l'enfant d'un journaliste, là, c'est au micro ou bien dans les colonnes du journal que vous l'apprendrez.
Donc, c'est un problème difficile. Hier, nous étudions, mais hier, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas la télévision. Donc, le problème même se trouve au niveau de la cellule familiale.
Merci. On va terminer par l'ami Didier. Il a bien commencé en disant que vous, vous aidez beaucoup l'État dans la formation de la jeunesse, mais il a dit que le ministère vous mettrait des pieds dans les roues. Alors, les décisions que prend Cocoroco, est-ce que ce sont des décisions pour vous embêter, vous, les promoteurs d'écoles privées, ou bien pour que l'école prenne davantage?
Oui, nous l'avons dit, c'est de bonnes décisions, seulement que il n'y a pas de pédagogie derrière cette décision-là. Mm-hmm. Les gens ne sont pas préparés à cela. Mm-hmm. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.
Alors, justement, comme Alliance, est-ce que vous avez l'occasion de rencontrer le ministre ou bien ses collaborateurs pour exposer votre façon que les choses se fassent avec plus de pédagogie?
Il nous est arrivé de rencontrer les autorités et d'échanger avec eux. Donc aujourd'hui nous nous sommes dit que l'autorité ne peut pas tout faire, donc il faut que nous, en tant qu'association, nous soyons sur le terrain pour échanger avec les promoteurs, comprendre d'abord les problèmes et apporter
et remonter. Voilà, merci beaucoup. C'est monsieur ça. Bruce, très rapide tour de table pour recueillir vos cartons. Vous avez chacun 30 secondes. Sam Djobo.
Oui, parlant de l'agriculture togolaise.
30 secondes.
Oui, de l'agriculture togolaise, il y a un aspect qui n'a pas été évoqué, c'est notamment le rôle joué par l'ANSAT. L'ANSAT joue un grand rôle dans la construction des magasins de stockage, dans l'acquisition de matériel agricole, notamment les égreneuses, les vanneuses, les décortiqueuses, les calibreuses et consorts. C'est-à-dire, l'accompagnement de l'ANSAT n'est plus à démontrer dans la chaîne agricole. Merci. Mieux, quand les gens finissent de produire, notamment les céréales, c'est l'ANSAT qui rachète ça. Merci. À prix d'or. Donc, pour finir, carton vert à l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo.
Merci. Eric?
Oui, moi je vais donner un carton vert au promoteur de label d'or Gustave Bakunda, dont l'usine de transformation d'amandes de karité a été inaugurée à Batopé par la
première
la chef
ministre
du gouvernement Dobé. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a osé, qui a proposé quelque chose qui a été soutenu par l'agence USAID de l'ambassade des États-Unis à hauteur d'1,8 milliard de francs.
Nous en avons parlé hier.
Ah, d'accord.
Cette usine qui va traiter jusqu'à 4300 tonnes de beurre de karité par an. Le Togo, qui est le 7e producteur mondial d'amandes de karité, avec une production qui va entre 20 000 et 25 000 tonnes d'amandes de karité.
C'est très important.
Merci.
Parce que ça crée de l'emploi.
Merci.
Et je crois qu'au cours de cette inauguration, ce monsieur a eu à dire qu'il est prêt quand même à
merci, merci. Alors, Isidore, avant ton carton, rapidement, tes articles de RT Express. L'article vers un durcissement des conditions des travailleurs africains illégaux en Tunisie, avec ce message du président tunisien qui s'en prend aux négro-africains, et que l'alternative trouve que le gouvernement togolais se décharge voilà le silence retentissant de Lomé suite à ce message xénophobe du président tunisien. C'est pas seulement le Togo, tous les pays africains qui se taisent devant ce message à la haine du président tunisien. Et puis Actu Express qui revient également avec cet article, le grand oral du gouvernement à l'Assemblée nationale, un salmigondis de banalité indigeste qu'on va lire dans tes colonnes. Maintenant ton carton.
Pas de carton, mais vivement que les forats là qui permettent de faire le constat pour que l'année prochaine on puisse régler les problèmes. Et je vais applaudir à rompre les phalanges, qu'on ne soit pas toujours dans les constats.
Merci beaucoup. Monsieur Bellou, monsieur Bruce plutôt.
Oui.
30 secondes pour clore cette émission.
Et je voudrais tout simplement encourager les promoteurs d'école et leur demander de ne pas se décourager, que nous allons travailler ensemble pour que et l'école privée laïque soit professionnalisée et que la fonction enseignante soit valorisée. Merci.
Merci à vous. Merci beaucoup aux auditrices, auditeurs. C'est fini pour aujourd'hui. Bon appétit. Nous nous retrouvons demain mercredi à 11h, si Dieu le veut, et Dieu le voudra certainement.